RCF.
Je pense, donc j'agis. En direct de votre jardin, Melchior Gormand.
Et oui, jusqu'à 11h, je pense, donc j'agis, se met au vert à travers le jardinage. Vous le savez, on agit pour la terre, pour la planète. Chaque vendredi, nos jardiniers engagés pour un jardinage écologique nous rejoignent pour vous écouter en direct de votre jardin. Vous avez une question sur vos jardins, pelouses, plans d'intérieur? On ouvre le standard pour vous écouter. Et puis notre jardinier du jour va vous donner de bons conseils pour participer. Vous nous appelez dès maintenant au 04 72 38 20 23. Je répète, 04 72 38 20 23. C'est Mélissa qui est au standard, qui attend toutes vos questions. Vous les posez également, ces questions, par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Et puis dans notre groupe Facebook, Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis, justement, avec nos chroniqueurs qui chaque matin viennent prendre la parole pour nous parler de moyens d'agir. C'est ce que fera Marion Denis du think tank Vers le Haut. Vous savez que c'est le début de la Paris Fashion Week cette semaine. Et elle va nous présenter à cette occasion une école de mode pas comme les autres qui s'appelle Casa 93. Ce sera à 10h20. Et puis un petit peu plus tard, à l'occasion des trophées de l'engagement des jeunes, on découvrira le projet de notre invité du jour. C'est Charlotte Buatier qui nous présentera son projet Cleanway. Ce sera à 10h50. Il est temps d'accueillir, on l'attendait, notre invité du jour. C'est vous, Sylvain Lefebvre. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un nouveau dans l'équipe. Je vais être transparent pour nos auditeurs. Vous remplacez au pied levé, d'ailleurs, merci vraiment, Pascal Aspe, qui est un habitué de l'émission, mais malheureusement qui a le Covid, donc qui est en train de se reposer. Et on lui souhaite d'ailleurs un très bon rétablissement. Sylvain, vous êtes biologiste de formation. Vous êtes guide dans le voyage naturaliste. Vous êtes également un jardinier curieux de nature. Vous aimez bien vous faire appeler comme ça, Sylvain. Et vous êtes auteur à Terre Vivante d'un livre que vous nous présenterez pendant cette émission, qui s'appelle Safari au jardin, la biodiversité à portée de main. Peut-être, Sylvain, quand même, pour vous présenter aux auditeurs, vous pourriez justement nous parler un peu de votre parcours.
Oui, bonjour à tous. Et alors, je vais essayer en quelques mots de me présenter. Donc, moi, je suis biologiste de formation. Je travaille aujourd'hui dans le voyage naturaliste pour créer, guider des voyages dédiés à la photo animalière. Donc, plutôt sur du long courrier. Et puis, je m'implique également sur la biodiversité locale dans des actions d'éducation à l'environnement. Donc, au travers de différents médias, que ce soit le film, les expos photos. Donc sur la biodiversité des jardins, et je suis engagé depuis 2013 en famille sur un terrain à côté de Rennes en Bretagne sur le jardin vivant. Donc comment recréer chez soi un refuge de biodiversité et comment essayer de booster la biodiversité à domicile.
Vous êtes un jardinier curieux de nature. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous vous présentez comme ça, Sylvain?
Curieux parce que on va dire que le jardin, c'est pour beaucoup le dernier lien qui nous relie quotidiennement à la nature. Il se passe beaucoup de choses dans un jardin, si tant est qu'on quitte le modèle du jardin terrain de foot ou du jardin terrain de golf, juste cette étendue de gazon stérile, on va dire, qui est un désert biologique. Mais si on recrée les conditions pour accueillir chez soi de la biodiversité, il va se passer beaucoup de choses. Et la curiosité, en fait, c'est le temps de l'observation. Et quand on observe ce qui se passe chez soi, inévitablement, on va être touché par quelques histoires du monde vivant, et on va s'engager comme ça petit à petit dans une démarche de préservation. On va faire attention aux petits êtres qui nous entourent, et ça passe par la curiosité. Donc moi, je suis pas un spécialiste, je suis pas un entomologiste de métier, je suis pas un jardinier non plus d'expérience. C'est notre première maison, c'est notre premier jardin, donc il y a beaucoup de découvertes. Mais voilà, cette curiosité nous permet d'avancer, on va dire, dans le bon chemin sur cette thématique-là.
Alors, on va avoir un fil rouge qui va nous accompagner, Sylvain Lefebvre, jusqu'à 11h, que vous avez d'ailleurs choisi. C'est la thématique des jardins vivants, jardins sauvages. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Eh ben, c'est cette notion d'accueillir un maximum d'espèces chez soi, de faire en sorte que la petite faune puisse se trouver dans notre jardin, le gîte et le couvert. Donc ça va passer par l'aménagement d'endroits où les animaux vont pouvoir se nourrir, vont pouvoir se reproduire, vont pouvoir hiberner, ou juste comme ça être de passage, interagir de manière très ponctuelle, et puis continuer de passer de jardin en jardin, de champ en champ, de centre-ville en centre-ville. Donc c'est cette idée-là, c'est d'avoir un jardin qui soit prêt à accueillir que ce soit des oiseaux, des petits mammifères comme le hérisson, des amphibiens avec des grenouilles, des tritons, etc. Donc c'est ça derrière la notion de jardin vivant, c'est le jardin biodiversité, à l'opposé, comme je vous disais, du désert biologique que propose le gazon.
Ben justement, hein, si vous avez des questions à propos de vos jardins, si vous avez envie que vos jardins soient un peu plus vivants, ben c'est l'occasion de venir poser toutes vos questions à Sylvain Lefebvre ce matin. Vous donnerez de bons conseils, j'en suis sûr, Sylvain, à nos auditeurs, au 04 72 38 20 23. On va accueillir d'ailleurs notre première auditrice de la matinée. C'est vous, Madeleine, vous êtes en Charente. Bonjour, Madeleine. Je vais vous laisser couper votre radio derrière, comme ça il n'y aura pas d'écho, on pourra vous entendre distinctement. Allez, Madeleine. Madeleine? On va y arriver, Madeleine. Je sais que vous êtes chez vous en train d'aller éteindre la radio.
Je ne suis pas leste, hein?
Madeleine?
Je vais couper la radio.
Oui, allez-y, hein, parce que sinon ça va être compliqué de vous entendre. Vous voyez, ce sont les conditions du direct. Hein. Madeleine, c'est tout bon? Bon, bah Madeleine, écoutez, on va essayer de vous récupérer dans un instant pour pouvoir vous entendre distinctement dans cette émission. Voilà, Sylvain Lefebvre, c'est l'inauguration de votre passage ce matin à l'antenne. Vous êtes dans la région de Rennes, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une région qui se porte bien justement au développement de la biodiversité. Il peut faire froid un peu parfois. Est-ce que ça veut dire que là aussi, il y a un terrain à connaître, il y a un climat à respecter, enfin pas respecter, mais à connaître?
Bon, les conditions climatiques vont surtout jouer sur les essences qu'on va semer dans le jardin, puisque le lien en fait entre le jardinier et le jardin vivant va se faire quand même beaucoup au travers du végétal. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de jardin potager, hein, c'est un des deux grands rôles du jardinier, c'est quand même de faire pousser des fruits et des légumes. Et puis l'autre rôle du jardinier, ça va être de protéger le vivant. Donc par rapport au climat qu'on peut avoir en Bretagne, effectivement, on va s'orienter sur des plantes qui sont plutôt adaptées à nos régions et qui vont être soit mellifères, soit nectarifères, et donc être des sources de nourriture pour les insectes pollinisateurs, par exemple. Donc le climat va jouer inévitablement sur les choix qu'on va faire en termes de végétation. Et puis le sol va jouer aussi. Moi, je suis sur un terrain très argileux.
Oui.
Donc voilà, on peut pas faire pousser tout et n'importe quoi. Après, comment se porte la petite faune, je vais dire, en Bretagne, je suis pas convaincu qu'il y ait de grande différence avec le reste du territoire français. C'est-à-dire que globalement, c'est très bien que la biodiversité... est érodé. Chaque jour, les chiffres qui tombent sont pas très rassurants de ce côté-là. Donc on a de moins en moins d'oiseaux qui sont en apparence quotidien. On a de moins en moins d'insectes. Et puis inévitablement, les environs proches de nos jardins vont influer aussi sur ce qu'on peut avoir chez soi. Qu'on soit en centre-ville ou qu'on soit à la campagne, ce sera pas la même chose. Qu'on soit entouré de champs en bio ou de champs conventionnels, ce sera pas la même chose. Donc tout ça va influer beaucoup sur le jardin, son apparence, et puis sur la faune qui va pouvoir venir ou pas. Sachant que même un balcon en fait peut devenir une petite réserve naturelle également. C'est-à-dire que si on met quelques gîtes à abeilles sur un balcon, quelques plantes bien choisies, éventuellement un nichoir, on peut avoir comme ça sur une surface réduite aussi des interactions avec le monde sauvage. Parce qu'on parle bien d'espèces sauvages. Hein. L'idée c'est de rester dans le sauvage, mais de venir appuyer un petit peu, de venir donner des coups de pouce ponctuels sur certains animaux, avec certains aménagements, et le toit d'un immeuble, un balcon ou un jardin peuvent avoir des choses à proposer de ce côté-là.
On a retrouvé Madeleine. Madeleine, vous êtes toujours en Charente, ça n'a pas bougé. On vous écoute.
Je suis toujours là.
Alors, c'est à vous.
Eh bien, j'ai dans mon jardin un magnolia qui est planté sur une butte. Il est très vieux, il fait comme moi. Et alors, je voudrais savoir ce que je dois faire pour bien l'entretenir, parce que je voudrais qu'il dure longtemps. Et alors, figurez-vous que j'ai eu une idée, bonne ou mauvaise, c'est ce que je voudrais savoir. Pour
Eh bien, écoutez,
après, j'ai fait mon sapin, bien entendu. Et alors après, j'ai fait couper les branches et je les ai fait installer au pied de mon magnolia. Est-ce que j'ai bien fait ?
Vous avez installé quoi au pied de votre magnolia ?
Je les ai pas enterrés. Je les ai simplement installés au pied
Mais
du magnolia.
De quoi ?
Des branches de mon sapin de
Noël.
Ah
oui, d'accord.
Alors, est-ce que j'ai bien fait ou pas ?
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madeleine, d'être venue à l'antenne pour poser cette question. Sylvain Lefebvre, est-ce que vous êtes un spécialiste des magnolias ?
Alors non, je suis pas spécialiste des magnolias. Ça va pas être évident de répondre à cette question. Par contre, dans l'entretien, en fait, il y a ce côté récupérer les branchages, les feuilles mortes de tout ce qu'on va pouvoir élaguer dans le jardin. Ça, effectivement, c'est des choses qui ne méritent pas d'aller en déchetterie. Alors, quand c'est des sapins, quand ce sont des résineux, ça a tendance quand même à acidifier le sol. C'est pas forcément ça qui va booster, on va dire, la qualité du sol. Mais par contre, d'aménager avec toutes ces branches, si on les met pas au pied des végétaux, on peut les mettre en bordure de jardin et faire ce qu'on appelle une haie de bois mort, c'est-à-dire aller entasser en fait tous les débris végétaux plutôt que de les emmener à la déchetterie au vert. Et de faire comme ça des petits tas, ça peut être des tas de feuilles mortes, ça peut être des tas de branches. On peut également aller enterrer du bois mort, hein, si on a quelques arbres qu'on a besoin d'élaguer avec des branches de diamètre un peu plus gros. On peut très bien imaginer faire un trou, hein, de 30, 40, 50 cm de profondeur, parfois même un peu plus, et d'entasser ce bois mort, de le laisser comme ça à l'air libre et de faire un petit monticule de branchage. Et ça va permettre à des insectes qui sont dits xylophages, c'est-à-dire dont les larves vont se nourrir de bois mort en décomposition, et ben ça va donner, on va dire, un habitat pour cette première phase de vie de certains insectes. Je pense au lucane cerf-volant, par exemple, à certains scarabées, qui vont passer en fait plusieurs années de leur vie à se nourrir de bois mort. Oui. Donc ça, c'est intéressant de garder cette matière-là. Pour le magnolia, je réponds pas à la question, mais je sais pas les gestes techniques qu'il peut y avoir en termes de taille pour peut-être rebooster ces plantes-là. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à...
Ah, je crois qu'on a une petite coupure avec Sylvain Lefebvre, qui est donc depuis chez lui, hein, pour faire de la radio. Alors parfois, c'est vrai que les connexions peuvent légèrement couper. Sylvain, qu'on va retrouver, je crois. Sylvain, vous êtes là?
Pardon, excusez-moi.
Non, mais ça arrive, vous inquiétez pas.
Oui.
Ouais, allez-y.
J'en étais sur le bois mort, du coup, pardon, je sais pas ce que vous avez eu. Non, voilà, simplement laisser le bois mort dans le jardin, laisser les feuilles mortes dans le jardin, ça peut servir d'abri donc pour des larves d'insectes, ça peut servir d'abri pour les hérissons, pour des petits crapauds, pour des amphibiens qui vont venir se cacher également dessous. Donc l'idée derrière tout ça, sans répondre vraiment à la question de la taille du magnolia, c'est quand même cette notion de bois mort. C'est mort en apparence, mais c'est vivant pour plein d'autres organismes.
Mais on pourrait penser, Sylvain, si on suit cette proposition d'aller mettre ce bois mort, hein, ce petit monticule de bois, comme vous l'avez dit, ça nourrit, voilà. Mais est-ce qu'on va pas être envahi de bêtes ? On peut se dire aussi, on n'a pas envie d'avoir trop de bébêtes dans son jardin, des bébêtes qui nous envahissent. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain ?
Ben, dans un écosystème qui est équilibré, hein, sur des grands espaces, il n'y a pas véritablement d'invasion d'un insecte sur le reste d'une population, parce que vous allez retrouver des prédateurs, vous allez retrouver des parasites. Donc normalement, on est censé tirer vers un milieu qui est équilibré. Et dans le jardin, on va pouvoir retrouver exactement la même chose, hein. Souvent, quand on a des invasions dans le potager de pucerons ou d'autres insectes parasites, c'est qu'on manque de cette diversité justement qui va pouvoir réguler tous ces insectes-là. Donc après, faut voir aussi ce qu'on appelle prolifération ou envahissement d'une espèce. C'est pas parce que vous avez 2-3 guêpes dans le jardin et quelques araignées qu'il faut s'inquiéter. Il y a aussi cette notion de repenser son regard sur certains animaux qui sont des mal-aimés. Les insectes en font beaucoup partie. Alors pas tous, parce qu'on a tendance quand même à rester quand même assez émerveillé devant une coccinelle, mais dès qu'on rajoute une paire de pattes et qu'on s'appelle araignée, le regard change. C'est la même chose pour les orties, hein. On a quelques plantes comme ça que les jardiniers ont tendance à supprimer. Donc si vous avez un écosystème qui est équilibré, on n'est pas censé être envahi de ces animaux-là.
Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole. Venez poser vos questions à Sylvain Lefebvre ce matin. Faites comme Madeleine, vous appelez le 04 72 38 20 23. On vous accueille avec grand plaisir ce matin. Sylvain, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez dit concernant la branche de sapin. C'est Madeleine qui avait essayé de planter une branche de sapin au pied de son magnolia. Vous avez dit que le sapin était plutôt acide. Ça, je ne savais pas ça.
Quand vous vous promenez dans une forêt de pins, de sapins, de résineux, globalement, ce sont des milieux où les sous-sols sont moins riches en termes de diversité végétale. Ce sont des milieux souvent plus pauvres. Et ça va, c'est pareil, ça va se vérifier dans un jardin. Mais le pin en lui-même apporte pas grand-chose sur le plan biologique. Il y a pas de fleurs, par exemple. Hein. Les pins ne font pas de fleurs. Donc en termes de quantité de nourriture pour beaucoup d'insectes, là c'est zéro. Donc c'est vrai que pour booster le jardin vivant, alors si on a quelques sapins, évidemment on les garde. Moi j'ai le sapin de Noël aussi que je finis par mettre dans le fond du jardin sur cette grande haie de bois mort. Et ça finit par se décomposer, mais c'est pareil, ça va prendre plus de temps. Mais il vaut mieux essayer de privilégier des arbres fruitiers par exemple, hein, si on veut rester dans ce côté jardinage et jardin nourricier. On peut privilégier des fruitiers, que ce soit de grands arbres ou des arbustes. Parce que voilà, ça peut faire déjà des petits fruits pour les animaux, pour nous, et puis toute cette période de floraison va être très très riche en nourriture aussi pour les insectes. Et quand je parle d'insectes pollinisateurs, je parle notamment des abeilles. Alors il n'y a pas qu'elles, hein, parce qu'on pense souvent aux abeilles, mais ça va être également des guêpes, ça va être un ensemble d'insectes comme ça qui dépendent directement de toutes ces petites fleurs-là. Et quand on va encore une fois dans la diversité, on va non seulement proposer des nectars de différentes qualités, des pollens de différentes qualités, et puis on va aussi booster la biodiversité parce que certains insectes sont très liés à des plantes en particulier et ne butinent que quelques espèces en particulier. Donc si vous voulez trouver de la diversité chez les abeilles, il va falloir inévitablement trouver de la diversité dans les fleurs qui sont proposées. Et les pins, les sapins ne vont pas du tout nous aider sur cet aspect-là.
On a Corinne en direct de Caen, bonjour.
Bonjour et bonne année à vous.
Meilleurs vœux, Corinne, on vous écoute.
Merci. Alors moi, je voulais savoir au niveau des oiseaux, j'ai un jardin où je mets beaucoup de mangeoires, mais je trouve que les mangeoires sont pas étudiées pour le nettoyage parce que c'est très compliqué. Mais aussi pour l'eau, enfin il paraît qu'il faut changer l'eau tous les jours pour les oiseaux. Je trouve que c'est une contrainte un peu difficile.
Vous avez besoin de conseils, hein, on entend en tout cas.
Voilà, c'est ça. Oui. Et j'ai aussi un hérisson qui vient là en ce moment, alors que normalement ils doivent être plutôt en période de repos, donc je comprends pas très bien, mais bon, il vient manger la pâtée du chat, je le laisse. Est-ce qu'il faut lui donner une nourriture plus particulière? Je ne sais pas.
Eh bien Sylvain, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour Corinne? À la fois pour cette mangeoire et puis pour les oiseaux et puis même pour cette question du hérisson. Alors vous n'êtes pas vétérinaire, je précise.
Oui, oui,
non,
oui.
Non. Alors.
Allez-y Sylvain.
Alors pour l'aspect mangeoire, effectivement, là nous sommes dans les mois où la pratique de la mangeoire est autorisée, on va dire. Donc on réserve ça toujours, hein, la pratique de la mangeoire pour les gelées hivernales. Donc c'est un petit coup de pouce, hein, on parle de nourrissage, mais c'est un petit coup de pouce qu'on donne aux oiseaux. Alors la première règle pour moi, elle est pas tant sur vraiment la présentation de la mangeoire, mais elle est par rapport au chat déjà. Il faut être très vigilant à faire en sorte que la mangeoire soit un peu surélevée et qu'elle soit pas accessible directement par le chat qui va venir se servir, sinon que ce soit le vôtre ou celui ou ceux des quartiers. Et après, c'est vrai qu'on a tendance à dire que de nettoyer de temps en temps un petit peu la mangeoire, c'est bien. D'avoir un point d'eau dans le jardin, c'est bien aussi. Moi, très clairement, j'ai une mare dans le jardin, donc l'eau, je la change pas tous les jours, et les oiseaux vont venir s'y baigner, vont venir s'y laver quotidiennement. Je suis pas convaincu que tous les jours ce soit indispensable. C'est bien d'avoir un petit point d'eau, c'est bien aussi, que ce soit une coupelle ou quelque chose d'un peu plus grand. Attention à pas avoir un récipient qui soit trop profond et dans lequel les oiseaux vont être piégés en fait, hein, et pas pouvoir sortir. Donc un petit coup de brosse, un petit coup de, et puis de changer l'eau. Oui, je suis pas certain que ce soit indispensable tous les jours. Mais c'est bien comme un nichoir, hein. Tous les ans, on a tendance à les brosser, à les frotter. Pas de produits, pas d'eau de Javel, rien de tout ça. C'est vraiment un petit coup de brosse. Pour ce qui est du hérisson...
Comment, Corinne?
Tant mieux. Tant mieux.
L'eau de Javel ne fait pas partie de mes produits.
Ah, bah, c'est bien.
Du vinaigre, et puis c'est tout.
Heureusement, vous nous rassurez.
Tant mieux. Mais c'est vrai que même si ce sont des mangeoires en bois, on peut avoir tendance à leur mettre de la lasure, par exemple, pour entretenir le bois tous les ans. Ouais. Bon, ça, c'est vrai qu'il faut être vraiment limité sur tous ces produits-là. Pour ce qui est du hérisson, effectivement, on est dans une période où il est censé être en hibernation. Donc ça veut dire que pendant l'automne, le hérisson a mangé beaucoup, a pris des forces. jusqu'à atteindre idéalement un poids qui fait 500 grammes. Ça, c'est, on va dire, le poids d'un adulte qui est dans de bonnes conditions pour pouvoir hiberner. Donc, il va avoir suffisamment de calories, d'énergie pour passer l'hiver. Maintenant, quand il y a des redoux pendant l'hiver, le hérisson peut sortir de son hibernation. Alors, c'est quelque chose qui peut faire ponctuellement. Il faudrait pas que ça arrive trop souvent pendant l'hiver parce qu'évidemment, il puise sur ses réserves et puis la nourriture est moins abondante en cette saison-là. Il y a moins d'insectes, notamment. Mais ça peut arriver. À ce moment-là, dans le jardin, ce qui peut être bien, c'est de proposer pareil, un petit point de nourrissage. Alors, à l'automne, au moment où il va s'engraisser, si j'ose dire. Et puis, pendant l'hiver, d'avoir quelque chose à disposition pour le hérisson, si vous l'avez. Le mieux pour le hérisson, ce sont les croquettes pour chats, qui sont très vitaminées, qui sont très riches. Et les vétérinaires utilisent les croquettes pour chats dans les centres de réhabilitation des hérissons. Donc, le pain, le lait, c'est à bannir, vraiment à bannir, parce que ça peut les tuer, ça peut leur provoquer des troubles digestifs assez graves. Mais par contre, la croquette pour chat est très intéressante. Donc, moi, je suis pas un ami du chat parce que c'est un chasseur dans le jardin. Il a une prédation qui est pas anodine. Mais il y a ce côté-là de positif. Les gens qui ont des chats qui proposent des croquettes, je suis persuadé qu'ils voient régulièrement le hérisson venir manger pour ça. Donc ça peut aider. Mmh. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'il puisse avoir un endroit dans le jardin où il va pouvoir se reposer, hiberner, même si ce sont sur des périodes plus courtes, parce que le réchauffement climatique fait que il y a ce problème-là aussi des réveils plus réguliers peut-être du hérisson. Donc il y a certainement un lien entre le réchauffement climatique et sa biologie hivernale. Mais on peut avoir dans le jardin, voilà, un gros tas de feuilles mortes, encore une fois, ou alors une palette, ou des dessous de terrasse, où on va laisser les accès possibles, où il va pouvoir venir se reposer, et puis dès qu'il sort, d'avoir un petit point de nourrissage. C'est censé être ponctuel. Et puis, il faut pas oublier que le hérisson, c'est un grand voyageur qui passe de jardin en jardin. Donc, on peut le voir une fois, un soir, et puis le revoir pendant des mois. Voilà, c'est pas forcément quelque chose d'inquiétant, il s'est peut-être aussi tout simplement déplacé.
Voilà, Corinne, est-ce que ça vous va?
Ben écoutez, moi j'ai les chats aussi parce que c'est pour ça que j'ai vu le hérisson puisque je mets des croquettes et qu'ils viennent manger les croquettes du chat. Donc là j'ai été acheter de la nourriture pour hérisson, mais bon je laisse quand même la nourriture pour chat. Voilà.
Voilà.
Ils aiment bien aussi ronger les os. Hein. Ils nettoient très bien les os, hein, les hérissons.
Ben oui, ils peuvent être charognards à l'occasion. ils peuvent être charognards à l'occasion. Ça avec beaucoup d'insectes, de mollusques.
Je pense que c'est un jeune hérisson de l'été, quoi, parce qu'il n'est pas très gros, mais il est déjà costaud quand même, hein, et il court vite. Hein.
Ah ben, quand ça court, hein, les hérissons, c'est
oui,
sûr.
Oui, oui.
Merci Corinne.
En tout cas, merci à vous aussi, je vous souhaite une belle journée, au revoir.
C'est très gentil, merci Corinne de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Dans un instant, c'est Christiane qui nous rejoindra. Sylvain, je note que vous n'êtes pas très chat, alors je crois qu'on ne va pas bien s'entendre ensemble. Est-ce que vous aimez la mode?
La mode.
La mode vestimentaire.
Dites-moi. Je suis pas un bon client, non.
Bon, alors, mais on va en parler quand même parce que vous allez entendre que chaque vendredi, si vous prenez l'habitude de participer à cette émission, bah, on agit aussi avec des initiatives positives et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec notre chroniqueuse. Bonjour Marion Denis.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous êtes membre du think tank Vers le Haut, c'est un laboratoire d'idées dédié aux jeunes et à l'éducation. Justement, vous voulez nous parler aujourd'hui d'éducation et de mode?
Oui, alors cette semaine, c'est la Paris Fashion Week. Alors c'est une semaine consacrée aux dernières créations des maisons de mode. L'occasion pour moi de vous présenter une école de mode pas comme les autres, Casa 93. Alors cette école est née d'un projet de l'association Moda Fusion, et dont les principales missions sont d'identifier, de former et insérer les jeunes talents sur le marché du travail. Alors Casa 93, c'est une école gratuite et sans condition de diplôme pour des jeunes créatifs qui n'ont pas forcément encore trouvé leur place professionnellement.
Et que propose la Casa 93 comme formation, Marion?
Alors l'école propose un large choix d'enseignement, de techniques de création comme la couture, la broderie, la teinture, l'impression ou encore les logiciels numériques. Tout le monde peut y trouver son compte. Et ensuite, les étudiants doivent faire un stage dont la finalité est la création d'une collection de vêtements en collaboration avec des professionnels de la mode. Et pour finir, les jeunes élèves de Casa 93 bénéficient d'un accompagnement à l'insertion professionnelle. C'est donc un programme très complet.
Et sur quelle pédagogie est fondée alors cette école?
Alors Casa 93 s'adresse à un public qui n'a pas forcément été très bien accompagné par l'institution scolaire. L'association a donc développé une pédagogie plus participative, une pédagogie collective qui est issue des interactions entre ses membres. Travailler en groupe est donc primordial pour la CASA 93 afin d'effectuer des tâches complexes grâce à la synergie du groupe.
Et c'est important, selon vous, vraiment de travailler en groupe pour améliorer ses compétences, par exemple ?
Oui, tout à fait. Alors déjà, pour prendre confiance en soi, en responsabilisant chaque participant par son implication dans les tâches à réaliser et aussi sur les prises de décisions. Alors en fait, les décisions qui sont prises en collectif, sans avoir forcément imposé une hiérarchie, permettent une plus grande cohésion d'équipe et plus de respect face aux différentes décisions.
J'ai quand même l'impression qu'on s'éloigne un peu d'un parcours académique classique en faisant la CASA 93.
Alors oui, absolument, sachant que en fait cette école est spécialement conçue pour des profils atypiques et qui souvent ne trouvent pas forcément leur place dans un système académique classique. Et en plus de ça, les jeunes font régulièrement au cours de leur cursus des missions solidaires.
Oui, quel genre de mission justement ? Ce sera ma dernière question.
Comme je vous le disais, CASA 93 est née de l'association Moda Fusion, qui est en fait un énorme projet social pour les femmes et les jeunes, et dont est née la première et unique école de mode dans une favela au Brésil. Et en fait, grâce à cette collaboration, les jeunes talents, dans un esprit de partage, d'enrichissement mutuel et d'entraide, travaillent avec d'autres associations et transmettent leur savoir-faire et leur connaissance de la mode à des jeunes qui n'ont pas forcément accès à la formation. Donc c'est une très belle initiative que nous apprécions à Vers le Haut et encore une belle leçon de solidarité et d'espoir pour les jeunes talents.
Et qu'on peut retrouver d'ailleurs plus d'informations sur le site verslehaut.org. Merci beaucoup Marion Denis pour cette chronique. Sylvain Lefebvre, je ne vais pas vous faire commenter sur la Paris Fashion Week, mais est-ce que vous avez l'habitude de transmettre un peu votre passion pour la biodiversité, pour les insectes, pour les animaux aux plus jeunes? Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Oui, bah c'est une partie de mon activité et le jardin a eu l'occasion, à plusieurs occasions, a accueilli des classes. Donc j'ai eu des enfants, que ce soit de maternelle ou de primaire, qui sont venus dans le jardin pour s'émerveiller de ces petits êtres qui font notre quotidien, avec des animations autour des petites pêches dans la mare ou de la faune du sol. Donc oui, le jardin, c'est une école, c'est un lieu d'école, c'est un livre de biologie à ciel ouvert. Et on peut accueillir avec un peu de contenu des classes et de faire du jardin un lieu de sensibilisation.
Christiane nous appelle du Vaucluse au 04 72 38 20 23. Bonjour Christiane.
Bonjour.
C'est à vous.
Alors, moi je suis intéressée par les roses trémières. Et je voudrais qu'une rue de mon village, il y en ait dans la rue qui pousse, voilà. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Quand mettre les graines ou comment après les tailler, parce qu'il y a la hampe qui n'est pas très jolie quand c'est pas fleuri. Voilà, tous les conseils que vous pouvez me donner pour cultiver les roses trémières.
Merci beaucoup Christiane pour cette question. Sylvain Lefebvre, la rose trémière, c'est très beau d'ailleurs.
J'ai une autre question en retour. Pourquoi la rose trémière?
Parce que j'aime. Je ne sais pas pourquoi.
Pour l'aspect ornemental.
C'est pittoresque, ouais. C'est simple, c'est rustique, c'est beau, c'est...
Oui. Bah, j'en ai fait pousser aussi dans le jardin. Je sais pas s'il y a une méthode particulière pour ça. Mais simplement de faire des semis de graines au début du printemps, que vous pouvez même mélanger avec d'autres essences, hein, histoire d'étager un petit peu la végétation. Mais en général, moi je l'ai comme ça, du semis sur des sols où j'enlève quand même pas mal la première couche d'herbe. Hein, c'est vrai que pour toutes ces plantes-là, que ce soit des plantes messicoles, que ce soit toutes ces fleurs-là. Si vous semez comme ça dans les herbes directement sur le talus, ça sera peut-être plus difficile, je pense, d'avoir des levées. Donc moi, j'ai tendance à enlever la moquette du gazon sur quelques centimètres et puis à semer, directement sans trop enfouir et laisser pousser. Après, je fais pas vraiment d'entretien. Ça m'arrive de récupérer les graines et puis de ressemer d'une année comme ça sur l'autre.
Voilà, Christiane.
On peut la couper à quel moment?
Pourquoi?
Voilà, en hiver, j'ai une rose trémière, il y a une hampe qui est noire, qui est pas jolie. Est-ce qu'on peut la couper?
Oui, oui, vous pouvez, oui, oui, vous pouvez la couper, hein, ça va se ressemer par les graines. Vous pouvez couper ça, et c'est pareil, vous en servir soit pour du paillage. Mais c'est vrai que pour ces zones, dans le jardin vivant, on a un type d'aménagement qui est possible qui s'appelle la zone maigre, où en fait, c'est vrai qu'on a tendance à croire que plus un sol est riche, et plus ça sera facile de faire pousser des fleurs dessus. Et c'est pas toujours le cas parce que les sols qui sont drainants, assez pauvres, accueillent beaucoup de diversité florale également. On le voit avec, je sais pas, avec des coquelicots. On peut le voir avec toutes ces petites fleurs de champs qui poussent très bien sur des sols, sur des zones maigres. Et pour préparer une zone maigre, on enlève beaucoup de terre, on enlève beaucoup d'humus. Et comme ça, quand on a des zones de prairies fleuries ou des zones avec des roses trémières, avec des grandes hampes, alors moi j'ai tendance à les laisser le plus longtemps possible parce que souvent on a les graines hein, qui restent sur pied. Où les oiseaux vont pouvoir en profiter aussi. Et puis vraiment, à l'hiver, couper au pied, et puis bah, réinjecter ces tiges-là dans votre potager sous forme de compost ou dans la haie de bois mort, si vous en avez une pas très loin.
Ben, je vous remercie.
Merci beaucoup, Christiane, pour votre question ce matin. Merci, Sylvain, d'ailleurs, pour les réponses. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Est-ce qu'on a le temps d'accueillir Christine ? Allez, on va accueillir Christine. Vous êtes à Marseille. Vous nous apportez le soleil ce matin. On en a besoin. Bonjour, Christine.
Oui, bonjour à vous. Merci beaucoup pour votre radio et puis pour cette intervention de ce matin. J'ai jamais eu l'occasion de poser des questions, mais là, j'ai senti qu'il y avait un petit creux, alors je me jette dessus. Et voilà, c'est pour deux orchidées que j'ai récupérées parce qu'elles sont toutes les deux dans un endroit très chaud. Elles ont perdu leurs fleurs, leurs feuilles. Et voilà. Et comme elles ont encore dans leur peau des racines vertes, donc, bien que les racines extérieures soient presque toutes sèches, je voulais savoir si je peux les sauver.
Sylvain.
Bah, ça se tente. Mais est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on parle d'orchidées d'ornement, qui sont finalement des plantes d'intérieur? Est-ce qu'on parle d'orchidées sauvages, auquel cas les orchidées sauvages sont des espèces qui sont protégées et qu'on est censé laisser sur place, hein, que ce soit sur des bords de chemin ou dans le sous-bois forestier?
Quel est le contexte alors, Christine?
Oui, ce sont des orchidées qui sont achetées dans le commerce, qui sont vendues dans des pots transparents. Une a des fleurs blanches, l'autre a des fleurs bleues.
Alors, il faut essayer parce que là, quand on a des cultivars comme ça ou des plantes vraiment d'intérieur, vraiment ornementales, essayer de la ressemer et bon, je pense qu'il y a beaucoup d'espèces, différentes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de facteurs après qui vont pouvoir jouer sur l'arrosage, des choses comme ça, de pas les noyer. Ou c'est difficile de répondre à votre question. À mon avis, là, enfin, vraiment, on est typiquement sur cette dualité qu'il peut y avoir entre le jardin d'ornement avec beaucoup de fleurs qui sont très jolies à regarder. Je pense aux fleurs à pompons par exemple aussi, hein, ou toutes ces grandes orchidées qu'on vend beaucoup chez les fleuristes, les choses comme ça. Mais dans le jardin vivant, elles apportent pas grand chose. Elles sont très jolies, elles sont sélectionnées pour ça, mais elles vont pas apporter grand chose. C'est la même chose pour les fleurs à pompons, hein. Ce que j'appelle les fleurs à pompons, c'est les grosses fleurs où vous allez avoir beaucoup de pétales, beaucoup de couronnes de pétales. Ça souvent, ça a beaucoup de succès, hein, dans les jardins, les roses à pompons,
ouais,
etc.
C'est beau.
Ben c'est joli, mais il y a rien à manger, si j'ose dire, à l'intérieur. Et donc voilà, moi ça, spontanément mes choix se portent plus vers ces fleurs là, ces fleurs sauvages. Donc dans le jardin ornemental, on va pouvoir tirer vers des clématites par exemple, on va pouvoir tirer vers du chèvrefeuille. Les orchidées, c'est celles qu'on peut espérer dans le jardin vivant, vont être des orchidées en fait spontanées. Et ce sont des plantes de toute façon qu'on n'a pas trop le droit de déplacer, de cueillir, parce que comme je vous disais, elles sont toutes protégées.
Voilà Christine, merci beaucoup d'être venue à l'antenne pour nous parler de vos orchidées. On va se retrouver dans un instant, Sylvain Lefebvre, on va marquer une petite pause. Lydie nous rejoindra en direct de Lyon pour vous poser une question. Vous continuez d'appeler le 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions en termes de jardinage à Sylvain Lefebvre. et Sylvain qui est spécialisé, je le rappelle, notamment en biodiversité. Donc si vous avez besoin d'un jardin un peu vivant avec des insectes, des animaux, allez-y, hein, n'hésitez pas à venir poser vos questions. C'est le bon moment. Allez, un peu de musique sur RCF avec la sélection RCF. C'est Clémentine et Oscar Anton tout de suite qu'on écoute et on attend vos appels au 04 72 38 20 23. C'était Oscar Anton et Clémentine sur RCF. Voilà une nouveauté très sympathique. Minuit.
Je pense donc j'agis, se met au vert. Melchior Gormand.
Avec Sylvain Lefebvre, biologiste de formation, guide dans le voyage naturaliste et puis un jardinier curieux de nature, auteur à terre vivante. On parlera de votre livre tout à l'heure, Sylvain, bien sûr, on ne va pas y échapper. Lydie, vous êtes avec nous depuis Lyon au 04 72 38 20 23. Lydie, bonjour.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Je vous appelle parce que du coup, j'avais des questions. Je voulais installer une petite mare parce que j'ai un jardin bon qui est pas très très grand. C'est vrai que j'aurais aimé accueillir peut-être une grenouille ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu qu'on pouvait peut-être faire une petite mare dans une baignoire ou dans un petit bac. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Alors ce que j'en pense, c'est que c'est un point d'eau dans un jardin, c'est toujours une bonne chose. Donc l'installation d'une mare peut prendre effectivement plusieurs formes. La baignoire c'en est une, effectivement, de venir enterrer comme ça une baignoire dans le jardin, ça peut être ça. Vous pouvez creuser aussi tout simplement. Alors les baignoires, faut faire attention parce que ce sont des bords qui sont assez abrupts, qui sont lisses et glissants. Et si vous faites votre petite mare dans ce récipient-là, si j'ose dire, il faudra que les animaux puissent entrer et sortir, qu'ils aient des petites branches où s'accrocher. Hein, le piège, c'est qu'un oiseau vienne boire, tombe et puisse pas sortir. Surtout si le niveau est assez bas de l'eau à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose, je pense, sur laquelle il faut faire attention. Essayez d'éviter de mettre ça sous des arbres, hein, parce que à l'automne ça va être vite rempli de feuilles mortes. Et là on va eutrophier le milieu, on va avoir beaucoup de matière organique en décomposition, ça va appauvrir l'eau en oxygène. Donc c'est bien soit d'enlever un peu de feuilles mortes quand il y en a trop. On peut en laisser un peu, hein, ça va créer un fond de vase aussi dans la baignoire, et ça c'est bien, mais faut pas qu'il y en ait trop. Donc soit racler un petit peu à l'épuisette, soit essayer de mettre ça dans un endroit où vous êtes un peu plus à l'abri des feuilles mortes. Et puis après, il y a plusieurs petites règles aussi à respecter. La première, si vous voulez un peu de vivant dans votre mare, c'est pas de poisson, hein, parce que dès que vous allez introduire des poissons, comme on le voit beaucoup dans des bassins d'ornement, les poissons vont tout manger, hein, toutes les larves, tous les œufs, donc vous n'allez pas beaucoup avoir de diversité si vous avez des poissons. Et puis laisser faire en fait spontanément le vivant. On a le droit par contre d'aller récupérer sur des étangs voisins, hein, dans votre commune, si vous avez des étangs, des petites mares, vous avez le droit d'aller récupérer quelques plantes et de remettre ça en pot dans votre baignoire, ou alors dans le trou que vous avez creusé et dans le fond duquel vous mettez une bâche. Donc ça, on a le droit, hein. Ça peut être pour des iris, ça peut être pour des massettes, des choses comme ça. Et c'est bien de faire ça, parce que dans ce petit terreau, dans ces racines, vous allez certainement amener quelques traces de vie, des petites larves, des bactéries. Donc ça va être cette espèce, je vais dire, de catalyseur dans le milieu. Et puis si le point d'eau est repéré par des insectes, et j'en doute pas, vous allez voir arriver des petits insectes aquatiques comme des notonectes, des gérisses, des ditiques. Souvent ça commence par ces petits insectes là qui vivent dans l'eau, qui se reproduisent dans l'eau, mais qui sont encore capables de voler. Donc pour coloniser un point d'eau, ils se déplacent comme ça avec le vol. Et puis les grenouilles, c'est pareil, il faudra laisser le temps faire les choses, puisque tous les amphibiens de France sont des espèces qui sont protégées par la loi, donc vous n'avez pas le droit d'aller les déplacer d'un autre point d'eau. Donc ils vont venir. Donc soit ils vont venir dans la mare de manière ponctuelle se reproduire, soit les grenouilles peuvent hiberner également, les grenouilles vertes hibernent dans le fond des mares. Et puis si vous voulez aussi attirer des amphibiens, c'est bien de penser aux deux cycles de vie des amphibiens, c'est-à-dire qu'il y a la partie aquatique, la saison de reproduction, souvent le printemps-été, je vais dire, hein, en tirant un petit peu le trait, donc c'est grenouilles et tritons et salamandres également. Et puis vous avez la partie hivernage où en fait les amphibiens quittent souvent l'eau. Alors c'est pas le cas de la grenouille verte, mais les crapauds, les tritons, les salamandres vont quitter l'eau une fois que la reproduction a eu lieu. Et là ils vont avoir une phase terrestre, et ils vont venir se cacher sous des tas de pierres, ils vont venir se cacher sous des tas de branches, toutes sortes de...
Ah, petite coupure avec Sylvain Lefebvre, qu'on va retrouver dans un instant.
Voilà, le but du jeu, c'est à la fois de proposer ce point d'eau.
C'est bon, Sylvain, on vous entend.
Allô ? Vous m'entendez ?
On vous entend.
Pardon. donc soit effectivement la mare, ça fonctionne. Sinon, on peut creuser. Vous pouvez creuser. Moi, j'ai une mare dans le jardin qui fait 80 cm de profondeur. La profondeur, c'est important aussi parce que c'est ce qui va vous permettre de rester hors gel pendant l'hiver, et puis de toujours avoir un peu d'eau pendant l'été, même s'il y a de l'évaporation. Donc plus vous avez une mare profonde, mieux c'est. Et puis les amphibiens aiment bien avoir un petit peu de profondeur aussi pour se reproduire. Donc souvent, ce qu'on conseille, c'est de creuser un trou avec une partie en marche d'escalier, des marches qui font 20 cm par 20 cm, qui vont comme ça aller jusque dans le fond de la mare, et puis une partie en pente douce, en pente régulière. Donc encore une fois, par rapport à l'accès que je vous disais tout à l'heure, on parlait du hérisson par exemple. Le hérisson, si c'est une baignoire que vous avez enterrée qui tombe dans la baignoire, c'est pareil, c'est un piège mortel. Donc faut vraiment faire attention à ça. Si on choisit la baignoire, d'avoir des échappatoires possibles.
Voilà Lydie, merci beaucoup pour cette question très intéressante. C'est la première fois d'ailleurs que j'entends une question autour des mares et ça sera l'occasion bien sûr d'y revenir dans une future émission. Sylvain Lefebvre, il faut qu'on parle de votre livre qui est passionnant. Alors j'en ai lu quelques pages hein, parce que c'est un livre qui est important quand même, Sylvain Lefebvre, qui s'intitule « Safari au jardin, la biodiversité à portée de main ». C'est un livre sorti chez Terre Vivante. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans ?
C'est le récit d'une expérience familiale, de curieux de nature, comme on disait. Mais c'est voilà, c'est un petit peu, c'est 8 ans d'expérience, d'apprentissage, d'observation, de photographie autour des espèces qu'on peut accueillir chez soi pour inciter, on va dire, le lecteur à s'engager dans cette aventure du jardin sauvage. Alors je mets des guillemets à sauvage, mais à partir du moment où des espèces sauvages viennent interagir avec le jardin, on peut se projeter sur la notion de jardin sauvage ou de jardin naturel, jardin écologique. Mais voilà, donc c'est un récit d'expérience. C'est pas un guide technique, mais par contre, on a essayé beaucoup d'aménagements. La mare, ça a été vraiment un point fort, un gros temps fort. Et même 4 ans, 5 ans après la création de la mare, on voit des nouvelles espèces arriver. Donc l'idée, voilà, c'est d'expliquer un petit peu ce qu'on a vécu et de donner quelques clés pour que les gens puissent, en famille, simplement se lancer sur cette thématique-là de la biodiversité chez soi.
Et j'ai une très bonne nouvelle, un petit cadeau, on va dire, pour démarrer cette année 2022 pour vous, puisqu'on a quelques exemplaires du livre de Sylvain Lefebvre à vous faire gagner ce matin dans Je pense, donc j'agis. Je rappelle, Safari au jardin, la biodiversité à portée de main chez Terre Vivante. Alors, pour tenter votre chance, écoutez bien, car c'est vraiment très simple. Vous avez 2 solutions. La première, c'est d'envoyer un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr, un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. Et puis l'autre solution, c'est d'aller rejoindre le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Je viens de poster l'illustration, la première de couverture hein, du livre de Sylvain Lefebvre, et vous avez juste à écrire un commentaire en mettant par exemple je participe, et puis il y aura bien sûr un tirage au sort. Voilà, donc 2 solutions pour gagner ce livre de Sylvain Lefebvre: par mail à direct@rcf.fr ou alors dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, en dessous de la publication que je viens justement de publier. Voilà, Sylvain souhaite bien sûr bonne chance à nos auditeurs et j'espère que ça va les inspirer en termes de biodiversité. Corinne est avec nous de Douai. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour et belle année grâce à vous à la diversité, dans la diversité. Merci. Donc ma question c'était, j'ai un voisin qui, on a un mur mitoyen fait de tuya, donc d'une petite rangée de tuya. Mais le nouveau propriétaire a laissé pousser les tuya qui font presque 5 mètres de haut. Et donc, dernièrement, il m'a dit qu'il voulait les couper et mettre une cloison en bois. Et moi, je lui ai dit, je vais essayer de me renseigner pour savoir ce qu'il peut mettre d'autre, justement pour qu'il y ait des nichoirs, des choses comme ça pour la biodiversité. Mais je ne sais pas quoi lui répondre. Voilà.
Ben bonjour. C'est une bonne question, Julia, parce que c'est comme le bambou. Ça fait partie des plantes qu'on trouve beaucoup dans le jardin et qui sont relativement stériles sur le plan biodiversité. Donc couper du tuya, c'est plutôt une bonne chose, si tant est qu'après on remplace ça par des plantes et par des aménagements qui peuvent stimuler cette petite faune. Donc plutôt que des claustras pleins, c'est vrai que tout ce qui va être grillage ou des claustras un petit peu ajourés sur lesquels on va pouvoir faire monter des grimpantes, ça c'est plutôt à privilégier, je pense. Vous avez des plantes comme le chèvrefeuille, hein, par exemple, qui sont très très attractives pour beaucoup de papillons de nuit. Vous avez les clématites, vous pouvez avoir effectivement quelques rosiers sauvages, on peut trouver pas mal de choses. Effectivement, vous pouvez y fixer des nichoirs sur cette palissade. Vous pouvez aussi y fixer des petits gîtes à abeilles. Ça peut être intéressant, notamment des tiges creuses Alors les gens qui ont des bambous auront moins de difficultés puisqu'en enlevant ou en élaguant un petit peu le bambou qui a une tendance quand même à s'étendre beaucoup, en récupérant les tiges des bambous et en les tronçonnant tous les 20 cm, on peut faire des petits fagots comme ça avec un fil de fer qu'on va venir fixer sur la palissade, essayer de mettre ça un petit peu à l'abri du vent et de la pluie. Et donc là, vous allez avoir des abeilles, les abeilles qu'on appelle rubicoles, hein, des abeilles sauvages, solitaires, qui vont venir pondre dans ces petits gîtes-là. Donc vous pouvez avoir ces mélanges de petits gîtes, de nichoirs, et puis à la place des thuyades, venir mettre, ça peut être des groseilliers, des cassissiers, ça peut être tout un tas de petites baies, des petits fruitiers. Donc de toute façon, ce sera mieux qu'une haie de thuyas. Et puis même après, pas hésiter à étager un peu tout ça, c'est-à-dire que si on veut parler un petit peu sur le jardin d'ornement, le jardin potager, il y a beaucoup chez les plantes aromatiques, il y a beaucoup d'espèces qui sont très 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 intéressantes pour la biodiversité aussi. Je pense à l'origan, je pense à la menthe, je pense à la sauge. Donc voilà, ça peut faire une haie, alors qu'il cachera peut-être un petit peu moins le vis-à-vis, parce que c'est plutôt herbacé. Le temps que le chèvrefeuille, le temps que les clématites, que tout ça prenne un petit peu le dessus. Mais le thuya, effectivement, ça offre un petit peu d'abri à quelques oiseaux, mais faut pas avoir peur de l'enlever parce que on a mieux à mettre.
Merci Corinne pour votre appel ce matin dans Je pense donc j'agis. Je rappelle que vous pouvez tenter de gagner un exemplaire du livre de notre invité du jour, Sylvain Lefebvre. Le livre s'appelle Safari au jardin, la biodiversité à portée de main. C'est publié à Terre Vivante. Pour tenter votre chance, vous rejoignez le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Et là, il y a une photo, vous avez juste à commenter. Et puis l'autre solution, vous envoyez un mail à direct@rcf.fr. Il y aura bien sûr un tirage au sort pour sélectionner les gagnants. On va tout de suite parler engagement, Sylvain, avec notre invité. Et depuis le début de l'année 2022, c'est parti pour les trophées de l'engagement des jeunes. C'est un concours, je le rappelle, en partenariat entre RCF et la Mutuelle Saint-Christophe et qui a pour objectif de faire émerger, de soutenir des projets solidaires et innovants portés par des jeunes. Chaque vendredi, on découvre les candidats à cette édition 2022. C'est ce que nous allons faire tout de suite avec vous, Charlotte Buatier. Bonjour.
Bonjour.
Vous participez au Trophée de l'engagement avec l'association Made in Earth et également avec un projet qui s'intitule Clean Way, que vous portez d'ailleurs à Lyon. Quel est le principe de ce projet de Clean Way?
Alors ce projet, il est organisé par 6 étudiantes. Et en fait, on a décidé tout ensemble, on est toutes dans l'association qui s'appelle Made in Earth, qui est une association de notre école. Notre école, c'est Made in, donc c'est le supérieur de Sainte-Marie-Lyon. Et on a décidé d'organiser un projet qui s'appelle Clean Way, qui irait au-delà des murs de notre école et qui a pour but de sensibiliser la population lyonnaise à notre consommation de déchets. Donc en fait, ça va être organisé en 2 activités différentes. On a pensé d'abord à faire un clean walk dans les rues de Lyon afin de nettoyer, qui sera sous forme de jeu de piste. Donc ce sera un peu plus interactif et ludique. Et un village alternatif avec différents intervenants, différents jeux, activités et DIY sur le thème du zéro déchet, donc pour proposer des solutions pour réduire ses déchets, pour faire sa lessive soi-même par exemple. Et voilà. Et donc cet événement, il aura lieu sur la place Maréchal Lyautey le 2 avril, toute la journée.
Voilà, c'est dans le 6e arrondissement de Lyon. Vous participez donc au Trophée de l'engagement des jeunes. Si jamais vous gagnez, et on l'espère bien sûr pour vous, Charlotte, qu'est-ce que vous allez faire de la somme que vous pouvez tenter de remporter? Ça va jusqu'à 10 000 euros.
Oui. Alors, si on gagne, nous, la somme, on va premièrement donc l'utiliser pour financer cette journée, pour faire en sorte qu'en termes de logistique et en termes de mise en place, le cadre soit idéal pour nos intervenants et pour nos exposants. Et donc Sainte-Marie-Lyon, notre école, nous aide à financer ce projet. Donc si on gagne, on pourrait leur rembourser une partie. Et le reste de cet argent, on peut aussi le redistribuer à des associations qui nous ont aidés le jour de l'événement, et aussi à l'association Made in Earth de notre école pour que les étudiants qui arriveront les années d'après aient un budget pour remettre à bien des projets encore plus ambitieux. Mmh.
Dernière question, Charlotte Buatier, pourquoi c'est important d'encourager les jeunes à s'engager pour vous?
Alors pour nous, s'engager déjà, c'est donner du sens à sa vie. Et quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Et s'engager, c'est un moyen aussi de savoir vers quoi on tend et ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Et c'est aussi un moyen de se rassembler ensemble, de s'unir pour une cause qui est la même, et donc de travailler ensemble pour défendre cette cause. Et travailler ensemble, travailler en équipe, c'est très formateur pour la vie plus tard. Et aussi, je pense que c'est un moyen, quand on est jeune, de s'affirmer et de prendre confiance en soi. Parce que on peut se prouver qu'on est capable de défendre quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on est capable de mettre à bien des projets pour ça. Et c'est un grand moyen de se prouver que, bah, qu'on est capable tout simplement et de se donner confiance.
Eh ben, on vous souhaite bonne chance, Charlotte Buadissier, à vous et à toute votre équipe pour ce projet Clean Way à l'occasion des trophées de l'engagement des jeunes. Pour participer, je rappelle, à ce concours, vous allez sur le site trophée-engagement.fr. N'hésitez pas également à en parler autour de vous. Sylvain Lefebvre, voilà un projet intéressant.
Tout à fait.
Tout à fait. Dites-moi.
Pardon, allez-y.
Non, je vous écoute.
Non, la notion de déchet, c'est quelque chose de très important aussi, et ça rejoint un petit peu. On peut faire le pont hein, entre le déchet du jardin que beaucoup trop de personnes amènent en grande quantité à la déchetterie en utilisant de l'essence, en utilisant de l'énergie, alors que ça fait partie des déchets qui sont 100% compostables évidemment et qui peuvent, au-delà même de leur décomposition et du volume de déchets qu'on va réduire chez soi, qui peuvent même servir à accueillir d'autres espèces. Donc oui, pour la réduction de déchets, y compris pour le verre.
On arrive à la fin de cette émission, Sylvain Lefebvre. C'est passé très vite, hein. C'est terrible, une heure, mais ça passe toujours très vite, surtout le vendredi d'ailleurs. Peut-être un conseil rapide à transmettre à nos auditeurs et qu'on peut certainement d'ailleurs lire hein, dans votre livre Safari au jardin, la biodiversité à portée de main. Justement, un conseil que vous choisissez pour rétablir la biodiversité dans son jardin.
Ben, c'est de laisser un petit peu de place au spontané. Je pense qu'il faut que ça commence par ça. Le jardin vivant, c'est pas synonyme de travail, d'expérience, d'engagement. C'est souvent, ça commence par laisser un petit peu de place dans le spontané, de place pour le vivant. Et alors évidemment, tout ça dépend de la superficie du terrain qu'on a. Mais voilà, donc ça veut dire y aller mollo sur la tondeuse quand les beaux jours reviennent. Ça veut dire pas de taille des haies et des arbustes au printemps pendant la reproduction des oiseaux. Ça veut dire laisser pousser quelques soi-disant mauvaises herbes, mais qui sont en réalité pas là par hasard et qui sont en plus adaptées à notre climat et à notre sol. Donc voilà, lâcher un petit peu prise dans le jardin, laisser pousser, et la curiosité va emboîter le pas et certainement donner envie de poursuivre dans cette petite aventure-là.
Et la place des chats dans les jardins? Pour revenir sur les chats.
Je vous sens.
Ah oui, vous m'avez attaqué personnellement là.
Ah non, j'attaque pas le chat. Le chat fait partie de ces animaux qui sont beaucoup aimés dans la faune domestique. Maintenant, il faut faire attention parce que le chat c'est un animal domestique. Donc un chat qui chasse un oiseau, pour beaucoup de gens c'est normal, c'est la nature. Sauf qu'en réalité, non, c'est une espèce domestique qui interagit avec une espèce sauvage, donc il y a un lien. Donc loin de moi l'idée de dire il faut supprimer les chats, mais faire attention à son chat, par exemple en lui mettant une petite clochette, tout bêtement, une clochette ou deux autour du cou. Si vous avez un chat qui est très chasseur, qui ramasse beaucoup d'oiseaux, bah une petite clochette, simplement, ça veut dire que quand il va se promener dans le jardin, il va être un peu moins discret, les oiseaux vont pouvoir s'en méfier un peu plus. Donc il y a des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes.
Merci beaucoup Sylvain Lefebvre d'avoir participé pendant une heure à cette émission. J'invite également chacun à se rendre sur votre site internet qui s'appelle sylvainlefebvre-photovideo.com. C'est un peu votre portfolio, hein, votre site Sylvain Lefebvre. Et puis je rappelle ce livre, Safari au jardin, la biodiversité à portée de main, à retrouver chez Terre Vivante et notamment sur le site terrevivante.org. On a quelques exemplaires à vous faire gagner ce matin. Je rappelle que vous pouvez participer hein, pour tenter votre chance. Deux solutions. La première, c'est d'envoyer un mail à l'adresse de l'émission direct@rcf.fr, direct@rcf.fr. Ou alors l'autre solution, vous allez dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ». Et puis, je viens de poster une photo du livre de Sylvain Lefebvre et vous avez juste à mettre un commentaire « Je participe ». Et là aussi, il y aura un tirage au sort. Sylvain Lefebvre, merci beaucoup et bravo pour cette première en radio. C'était un vrai plaisir.
Merci. Merci à vous pour l'accueil.
Et on pense à Pascal Aspe. Merci à Christophe et Mélissa qui ont permis la réalisation de cette émission. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et puis on se retrouve lundi de 9h à 11h pour entamer notre programmation spéciale autour de l'élection présidentielle. On ouvrira le bal avec Madeleine Vatel. Bon week-end à tous et à lundi.